Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire, donc investir en dehors des banques. Moi, je suis Louise de chez Fève. Avec moi, il y a Mathieu de chez Goodvest et Paul-Antoine de chez Fève.
Bonjour.
Je vous propose une rapide présentation de Fermes en vie et ensuite, je laisserai la parole à Mathieu et Paul-Antoine. Fève, en bref, c'est une entreprise qui a pour mission d'accélérer la transition agroécologique. Pour cela, nous installons la nouvelle génération d'agriculteurs et agricultrices en France. Fève est née de deux constats. Le premier, c'est que le modèle agricole productiviste est à bout de souffle. Donc, on a des problématiques environnementales, des sols dont la santé se détériore, une biodiversité qui s'effondre, la pollution de l'eau, des émissions de gaz à effet de serre, la déforestation. On a aussi des problématiques sociales, de santé, de résilience alimentaire ou encore de redynamisation des territoires. Et ensuite, le deuxième constat, c'est qu'en France, on a entre 40 et 50% des agriculteurs et agricultrices qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Et la plupart d'entre eux n'ont pas de repreneur aujourd'hui. Et dans le même temps, on a beaucoup de porteurs de projets qui ont l'envie et les compétences, mais pas la possibilité d'accéder au foncier, très souvent pour des questions financières. Donc nous, on voit ce renouvellement de génération comme une opportunité pour le secteur agricole de se réinventer, avec un impact positif sur notre environnement, notre alimentation et nos territoires. Et chez Fève, on veut accompagner cette transition et même l'accélérer. Donc concrètement, on achète des terres agricoles grâce à une foncière dans laquelle vous pouvez investir. Et dans un premier temps, on loue les fermes à des porteurs de projets qui n'ont pas les moyens d'accéder au foncier, sous condition qu'ils aient envie de se tourner vers des pratiques agroécologiques. Et ensuite, les agriculteurs et agricultrices ont la possibilité de racheter les fermes. Le résultat, c'est qu'en moins de 2 ans, on a collecté 10 millions d'euros auprès de 900 investisseurs, ce qui nous a permis de financer 11 fermes sur lesquelles on a installé 19 agriculteurs et agricultrices. Et d'ici la fin de l'année, on en aura acquis 8 en plus. Voilà pour une présentation assez rapide de Fève. Sur ce, je vais laisser la parole à Mathieu. Est-ce que tu veux bien te présenter et puis nous parler de Goodvest?
Ouais, bien sûr. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation pour ce webinaire. Moi, je suis Mathieu Silva Santos. Je suis responsable de l'ISR, chez Goodvest, donc de l'investissement socialement responsable, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Chez Goodvest, très rapidement, nous, on est une entreprise à mission fintech qui propose à des particuliers, des clients particuliers, d'investir, d'épargner leur argent au sein de solutions comme l'assurance vie, comme le plan épargne retraite, avec un bilan environnemental assez prononcé, puisqu'en fait, l'ensemble de nos portefeuilles d'investissement sont engagés pour l'environnement. On a une particularité, c'est qu'on propose aujourd'hui les premiers portefeuilles d'investissement alignés sur l'accord de Paris en matière de climat, donc qui respectent une trajectoire de réchauffement climatique de maximum 2 degrés, en excluant les secteurs les plus néfastes, tout ce qui est lié à l'industrie du tabac, l'armement, divertissement pour adultes, et les entreprises impliquées dans la production et l'extraction de l'énergie fossile. Nos clients peuvent choisir les thèmes dans lesquels ils souhaitent investir autour de la transition écologique, de la santé, de l'accès à l'eau, de la forêt, de la mobilité bas carbone, la préservation du capital terrestre. Et tout ça au sein d'une enveloppe, enfin d'enveloppes en tout cas assez traditionnelles comme voilà, l'assurance vie et le plan épargne retraite. Voilà pour Goodvest. On pourra bien évidemment en reparler lors du webinaire.
Merci. Et Paul-Antoine, tu veux nous parler de Fève et de toi?
Ouais, donc moi je suis responsable, donc comme Louise l'a précisé avant, on a créé une foncière, et donc moi je suis responsable justement de trouver des investisseurs pour cette foncière, donc développer la communauté d'investisseurs pour la foncière Les Fèves, pour collecter des fonds pour nous permettre d'acheter de plus en plus de fermes. Notre ambition à Fèves d'ici 2027, c'est de convertir la surface de Paris en agroécologie chaque année. Donc ça représente environ 200 fermes par an de 50 hectares, une surface de 10 000 hectares. Donc l'objectif, c'est de continuer à grandir, à grandir la communauté et l'animer.
Tous les deux, qu'est-ce qui vous a poussé à titre perso à vous intéresser à ces sujets d'investissement durable? Et enfin, est-ce que vous pouvez nous en parler l'un ou l'autre?
Vas-y,
Tu veux
Mathieu.
commencer?
Ok, je commence, pas de problème. Alors moi, j'étais déjà un petit peu dans le milieu de l'investissement, puisqu'avant, j'étais, on va dire, du côté obscur de la force. Moi, j'étais dans la finance traditionnelle, j'étais banquier privé dans un des principaux groupes bancaires français. Donc, je gérais l'argent de personnes très fortunées. J'investissais leur argent, je répondais à leurs problématiques fiscales, patrimoniales, financières et autres. J'étais déjà quelqu'un de très engagé, moi, sur le plan personnel. Et j'avais conscience qu'aujourd'hui, la finance, peu importe sa forme, que ce soit de l'assurance vie, de l'investissement alternatif comme Fèves, avait un rôle en tout cas capital à jouer dans la transition écologique, dans la préservation de la biodiversité et autres. Et aujourd'hui, malheureusement, le problème étant qu'il y avait très peu d'offres, et il y a encore très peu d'offres aujourd'hui sur le marché, très peu de transparence sur ce qui était réalisé avec notre argent. Aujourd'hui, si on se pose la question de comment est investi notre argent, que ce soit sur notre compte courant ou sur notre livret, ben en réalité, on ne le sait pas. Il y a très peu de transparence et quand on creuse un petit peu, ben ça fait peur. Et ça, bien évidemment, on donnera des chiffres par la suite avec Paul-Antoine, mais voilà, c'est un petit peu de là, moi, qu'est né mon déclic, en tout cas sur la partie financière. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre une société comme Goodvest qui avait du sens, en tout cas pour moi, de pouvoir réorienter l'épargne aujourd'hui des Français vers des solutions à impact positif sur l'environnement.
Et moi, c'est vrai que moi, je me suis engagé aussi dès la fin de mes études. J'ai fait une école de commerce. Je me suis posé la question de ce que je voulais faire et j'avais envie de travailler dans des projets à fort impact social ou environnemental. Et moi, j'avais commencé dans une sorte de finance qui est plutôt la philanthropie. Donc, je devais collecter des dons pour des ONG qui aidaient les jeunes défavorisés dans le monde. On aidait des ONG qui aidaient les jeunes défavorisés dans le monde, donc autour de l'insertion pro, l'éducation, la protection des droits de l'enfance notamment. Donc, on avait des assos en France et puis aussi dans des pays en voie de développement. Et donc voilà, je m'intéressais déjà fortement à ces sujets-là, et notamment aux sujets environnementaux, quand j'avais lu notamment le livre de Pablo Servigné, Comment tout peut s'effondrer, qui m'avait beaucoup marqué. Et donc j'avais ensuite, par la suite, souhaité vraiment intégrer une entreprise qui travaillait sur le sujet de la transition écologique. Et donc j'avais rencontré notamment un des fondateurs, Marc, un des fondateurs de Fèves, dès l'année 2020. Et qui m'avait parlé de ce projet Fèves qui n'était pas encore né. Et donc j'avais suivi le projet depuis le départ. Depuis 3 ans, je le suis. Et je suis ravi d'avoir rejoint Fèves en début d'année justement pour le développer parce que c'est un projet qui a un fort impact social et environnemental. L'agriculture étant au cœur de pas mal d'enjeux, comme tu l'as dit, Louise, au démarrage.
Merci. Paul-Antoine, tu pourrais nous peut-être partager quelques chiffres justement sur l'agriculture, l'épargne, etc.
Oui, alors c'est sur l'épargne des Français, en fait, pour vous remettre dans le contexte avant de parler de l'impact de notre épargne. Quelques chiffres, c'est que je voulais vous présenter, c'est qu'en France, les Français ont un taux d'épargne. En 2021, le taux d'épargne était de 18% par Français. Selon une étude de l'AMF, il y a 87% des Français qui prennent en compte les enjeux de développement durable dans leur façon de consommer en général, dans leur vie de tous les jours, mais seulement 54% qui prennent en compte pour leur épargne et leur placement. On voit qu'il y a quand même un gap entre la prise de conscience de l'impact sur la consommation, entre la consommation et l'impact de son épargne. Et en fait, seulement 8% des Français aujourd'hui possèdent un placement dit ISR. Donc même si l'épargne solidaire, donc ça c'est l'épargne solidaire des Français, augmente fortement. Donc entre 2021 et 2022, il y a eu une augmentation de 7,4% sur un an de l'augmentation de l'épargne solidaire, donc qui est passée à 26,3 milliards d'euros. Ça représente 26,3 milliards d'euros en France en 2022. C'est une énorme progression, mais ça représente quand même une toute petite partie de l'épargne financière des Français. Ça représente 0,45% de l'épargne des Français au total. Voilà quelques chiffres pour remettre dans le contexte avant de parler de l'impact concret de notre épargne.
Ok, merci. Juste une petite précision sur les questions. On aura un temps de réponse à vos questions, mais vous pouvez les mettre dans le chat et on y reviendra après. Du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir ce que finance notre argent qui est à la banque sur nos comptes épargne? Est-ce que ça dépend des banques, etc. Mathieu, peut-être?
Eh ben non, pour le coup, ou en tout cas chez Goodvest, on le sait. Non, plus sérieusement, effectivement, il y a très peu de transparence sur ce qui est fait avec notre épargne. On pense que lorsqu'on laisse son argent sur un compte courant, sur un livret d'épargne ou autre, il ne travaille pas, mais en réalité, cet argent, il est utilisé indirectement, pas directement par les banques, mais il est utilisé indirectement pour financer des projets. Malheureusement, aujourd'hui, en France, on a des banques qui sont très accros finalement aux industries polluantes. comme les énergies fossiles et qui continuent de financer des nouveaux projets fossiles. Et quand on écoute aujourd'hui la littérature scientifique, quand on lit plutôt la littérature scientifique ou autre, quand on lit les différents rapports du GIEC, plus aucun projet lié aux énergies fossiles ne doit sortir si on souhaite atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et ça, en fait, finalement, on ne le sait pas. Nous, on pense que notre argent, voilà, reste tel quel. Mais finalement, il est utilisé à cette, avec, enfin, avec comme objectif justement le financement de ce type d'entreprise. Donc, c'est très compliqué de calculer l'empreinte carbone aujourd'hui de notre épargne, mais il y a différents rapports qui permettent. Il y a un très bon rapport justement de l'Oxfam qui permet d'estimer aujourd'hui l'empreinte carbone de notre épargne laissée sur un compte courant ou sur un livret bancaire. Aujourd'hui, on estime que pour 25 000 euros laissés sur un livret bancaire, c'est l'équivalent de 11 tonnes de CO2 par an. C'est colossal. 11 tonnes de CO2, pour rappel, hein, l'empreinte carbone de notre consommation personnelle, c'est à peu près 8-9 tonnes en moyenne. Faut atteindre 2 tonnes si on souhaite atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Notre épargne laissée sur un compte bancaire, c'est environ 11 tonnes. Ça va différer en fonction des banques. Forcément, il y a des banques qui sont beaucoup plus engagées que d'autres, qui financent aujourd'hui moins d'industries polluantes, donc nécessairement qui vont permettre de réduire l'empreinte carbone de notre épargne. Mais aujourd'hui, en tout cas, si on laisse son argent sur la banque, on peut estimer à 11 tonnes de CO2. Alors, ce n'est pas additionné avec son empreinte carbone personnelle, et ça, j'insiste toujours dessus, c'est des chiffres qui sont très différents. Moi, les 11 tonnes, ce que je dis toujours nous à nos clients ou en interne, c'est que c'est 11 tonnes de CO2. Il ne faut pas le prendre comme une émission directe de CO2, mais plutôt comme un indicateur de contribution aujourd'hui au dérèglement climatique. Donc, preuve qu'aujourd'hui, notre épargne participe de manière conséquente au dérèglement climatique. Ça, c'est uniquement sur la partie épargne. Et aujourd'hui, sur la partie investissement, on voit qu'il y a un mouvement justement vers la réorientation des flux, vers la transition. Il y a même des labels qui existent. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler, par exemple, du label ISR. C'est le plus connu aujourd'hui. Plus de 1 000 fonds qui sont labellisés ISR en France, enfin, en tout cas, des milliers. Néanmoins, nous, le constat qu'on a fait chez Goodvest, c'est que même sur des fonds labellisés, entre guillemets, il n'y a pas de transparence sur ce qui est réalisé. Et en réalité, le label n'est pas un gage d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on peut très bien être investi sur un fonds ou un investissement ISR et être encore investi dans les énergies fossiles. Par exemple, je regardais encore il n'y a pas si longtemps avec mon équipe, on analysait un fonds qui s'appelait Climate Change, je ne me souviens plus exactement du terme de l'investissement. On regardait les 5 premières entreprises qui étaient présentes, c'était 5 majors pétrolières qui étaient représentées au sein de ce fonds d'investissement. Donc, preuve qu'aujourd'hui, ce sont des labels qui ne sont pas suffisamment exigeants et il y a très peu de transparence. Donc, en fait, vous, en tant qu'épargnant, en tant qu'investisseur, on peut rapidement se faire avoir par le terme en pensant investir justement dans des projets durables, ouverts, et en réalité, pas du tout. Donc, c'est
Ok.
pour ça qu'il faut accroître justement cette transparence qu'on fait, notamment chez Goodvest.
Et entre ce qui est fléché sur la transition et ce qui devrait l'être, tu peux nous en parler?
Oui, alors ça, il y a des chiffres qui sont assez parlants aujourd'hui. Alors, il y a différentes études. Nous, on regarde sur la partie énergétique. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'il faudrait investir 5 000 milliards d'euros par an pour réussir la transition d'ici 2030. Aujourd'hui, on investit à peu près 2 000 milliards. Donc, il faut plus que doubler les investissements dans l'énergie pour atteindre la transition et les objectifs de l'accord de Paris. D'autres chiffres qui sont assez parlants. Alors, à côté de ces 5 000 milliards, le patrimoine financier des Français aujourd'hui représente 6 000 milliards d'euros. Sur ces 6 000 milliards d'euros, Antoine, tu as donné un chiffre qui est assez intéressant hein, sur l'épargne solidaire. Donc, on imagine que sur ces 6 000 milliards d'euros, il y a à peine 1% qui est investi dans l'épargne solidaire. Il y a à peine 5% qui est investi de manière responsable sur des investissements climatiques. Et au-delà de ça, si on regarde dans le monde entier, ça c'est un chiffre qui est encore plus parlant, il y a seulement 0,2% des actifs sous gestion globaux investis dans le monde qui sont réellement alignés sur l'accord de Paris. Et quand je dis réellement alignés sur l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'en analysant l'empreinte carbone finalement de ces investissements, à la fois en tenant compte des émissions directes et indirectes, les fameux trois scopes d'émissions de CO2, dont on parle souvent. 0,2%, c'est peanuts pour le coup. Donc il y a un gros travail à faire. J'en parlais tout à l'heure, mais. Sur l'investissement dans les énergies fossiles. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 87% des fonds qui sont labellisés, qui investissent encore dans une entreprise en lien avec les énergies fossiles. Et plus encore plus parlant, il y a une étude qui a été faite par la Banque de France, qui est hyper intéressante, hein, qui montre qu'aujourd'hui, un investisseur qui veut investir de manière responsable, durable, si il se bande les yeux et qu'il choisit, qu'il prend au hasard un fonds labellisé et un fonds non labellisé, bah, en fait, il y a une chance sur deux que le fonds labellisé soit pire que le fonds non labellisé. Donc, il y a vraiment des grosses carences, des grosses lacunes. Et en réalité, si on veut financer ces 5 000 milliards d'euros par an, il y a encore un gros travail à faire, mais ça se fait grâce à des initiatives comme Ferment-Vie, comme Goodvest ou autres, qui permettent de réorienter, de flécher en tout cas de la meilleure des manières l'épargne et les investissements des Français.
Okay. Et du coup, en dehors de l'investissement dans les banques, il existe quoi comme solution?
Bah, Ferment-Vie, Goodvest, il y en a plein. Justement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très enclin, et d'ailleurs, je reviens parce que j'aime beaucoup les chiffres, mais il y a des études assez intéressantes qui montrent qu'aujourd'hui, les Français, on a très peu d'éducation financière, et les Français, tout le temps, font confiance. Je crois qu'il y a 7 ou 8 Français sur 10 qui font confiance à leurs conseillers pour investir. Or, et ça, moi, pour avoir travaillé en banque, c'est pas forcément les plus. Enfin, les conseillers bancaires, hein, j'entends. C'est pas forcément les conseillers bancaires les plus. Experts sur les sujets d'investissement et d'épargne, malheureusement. Donc, il existe aujourd'hui des sociétés qui sont spécialistes sur un secteur de l'investissement, sur un pan de l'investissement, typiquement Ferment-Vie sur les fonciers agricoles, Goodvest, nous, sur l'investissement coté en bourse, en assurance vie et en PER individuel, en plan épargne retraite. Il existe aujourd'hui des solutions innovantes, justement, qui permettent de réorienter, en tout cas, les flux et d'investir de manière réellement engagée. Ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, comme je disais, tout le monde veut faire de l'investissement responsable, même les banques, hein. Aujourd'hui, si on écoute toutes les banques, tout le monde investit pour l'environnement. Il y a même des, comme je disais, des labels. Maintenant, là, le livret de développement durable et solidaire qui existe. Mais quand on regarde en détail ce livret de développement durable et solidaire, bah, il n'y a que le nom qui est solidaire et qui est durable, malheureusement. Donc, au contraire, il faut justement envoyer des signaux et encourager justement la création de nouvelles innovations. Ça passe par des foncières agricoles, par de l'assurance vie, par de l'investissement immobilier. Il y a d'autres acteurs qui existent aujourd'hui qui permettent d'investir justement dans l'immobilier durable, dans le crowdfunding. On en parlait juste avant ce webinaire, Paul-Antoine. Il y a des super projets qui se sont montés, des super innovations comme l'ITA, NRFIP et autres qui investissent justement dans des projets liés à l'énergie, dans l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, il est possible d'investir en dehors des banques, mais toujours, et là je vais avoir ma vision, ma casquette un petit peu gestionnaire de patrimoine, entre guillemets, mais toujours avec en diversifiant bien son patrimoine. En ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, c'est un adage qu'on utilise beaucoup dans le monde de l'investissement, mais il faut faire très attention en tenant compte de ses projets, de ses objectifs d'investissement. Et ça, potentiellement, ça pourra faire l'objet, on pourra compléter la réponse à la fin de ce webinaire.
Moi, je suis d'accord, il existe maintenant de plus en plus de solutions, c'est sûr, pour épargner différemment. Nous, on est notamment labellisé Finansol, qui est un des trois grands labels de la finance solidaire, qui est le troisième en termes d'encours, et qui, lui, pour le coup, garantit le financement d'activités vraiment à forte utilité sociale ou environnementale. Et souvent pour le financement de produits, justement, qui ne pourraient pas être financés par des circuits classiques. Donc, il y a des foncières solidaires comme Fève. Il y a d'autres exemples de foncières solidaires, par exemple Habitat Humanisme, qui va favoriser la rénovation de biens immobiliers pour reloger des personnes en situation d'exclusion sociale. Dans le statut de foncière aussi, il y a d'autres exemples dans les foncières agricoles comme Terre de Liens, qui est aussi une foncière historique, qui est la foncière historique agricole qui a le même objectif que nous, c'est-à-dire de favoriser le renouvellement des générations d'agriculture. Et l'accès aux foncières agricoles en agroécologie pour la nouvelle génération. Donc, il y a des foncières solidaires, il y a des plateformes de financement participatif, comme t'en parlait Mathieu, donc comme l'ITA, qui permettent de financer des projets à fort impact. Nous, dans notre domaine, par exemple, ils ont permis à des projets comme Genesis de se financer. Donc, ça, c'est de l'investissement pour le coup, dans un projet en particulier, via du crowdfunding. On investit en fait comme un business angel, on devient investisseur actionnaire. D'une entreprise qui a un modèle financier. Donc là, par exemple, Genesis, c'est une entreprise dans l'agriculture qui crée un indice de santé des sols reconnu au niveau scientifique pour aider les entreprises à mesurer leur réel impact environnemental à la production de leurs produits. Et puis, il y a aussi du financement participatif via des dons ou des prêts qui existent. Donc, je pense notamment à Mimosa, nous, ou Bluebees, qui sont des plateformes qui sont complémentaires d'ailleurs de ce qu'on fait, nous, chez Fev, pour l'installation de certains agriculteurs, par exemple. Nous, on va financer vraiment la partie foncière, donc les terres et les bâtiments. Et Mimosa et Bluebees peuvent aussi permettre à ces agriculteurs de se financer une partie du matériel ou des besoins en fonds de roulement, potentiellement le cheptel pour s'installer via une plateforme, via une campagne de crowdfunding. Mais ça, ce sera plutôt du prêt que les citoyens vont octroyer à des agriculteurs plutôt que de passer par un prêt bancaire. Donc, ça permet quand même d'avoir une solution différente et c'est en faveur de la transition écologique et alimentaire. Donc, il y a plein de solutions en effet pour diversifier maintenant son épargne et avoir un impact concret et en ayant plus de visibilité sur vraiment ce qu'on finance. Il y a aussi les investissements dans les forêts, dans les vignes, on en a parlé rapidement. Et du coup, il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités. Contrairement à il y a quelques années, il y a beaucoup de possibilités pour investir avec des tickets qui sont d'entrée qui sont assez bas en général et avec une visibilité sur vraiment ce qu'on finance sur des actifs en général qui sont des bonnes valeurs refuge aussi. Là, quand on parle de foncière, de financement, enfin, c'est vraiment de l'immobilier, donc c'est des valeurs sont quand même parfois assez solides. Et donc il y a possibilité aujourd'hui de diversifier son épargne sur plein d'actifs avec forcément des tickets d'entrée plus accessibles qu'au préalable, quoi.
Ouais, effectivement. Et pour revenir à ce que tu disais, Antoine, sur le label Finansol, c'est surtout un label hyper exigeant, un des plus exigeants pour le coup aujourd'hui sur le marché. Moi, je parlais beaucoup du label ISR, je me suis concentré dessus parce que c'est celui aussi aujourd'hui qui est le plus controversé. Mais le label Finansol, nous, on l'utilise énormément chez Goodwest. On a notamment une thématique liée à l'emploi et à la solidarité qui est labellisée Finansol. Et il faut savoir que tous les autres labels, ISR, Greenfin ou des choses comme ça. Alors Greenfin, c'est un très bon label, mais ce sont des labels étatiques. Pour le coup, ils ont été créés l'un par le ministère de l'économie, l'autre par le ministère de l'écologie. Le label Finansol, c'est un label indépendant qui est attribué par une association qui s'appelle FAIRE, et en plus de ça, qui n'est pas attribué directement par l'association, mais qui est attribué par un comité d'experts indépendants. Et donc le processus, pour le coup, de labellisation, il est quand même assez long, il est assez exigeant. Donc en fait, quand un investissement est labellisé Finansol, c'est quand même un sacré élément de réassurance pour l'ensemble des épargnants. Ça, c'est hyper, hyper important.
Et du coup, aujourd'hui, on peut allier rentabilité et impact positif?
Alors moi, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Nous, après, on est sur une thématique très particulière, c'est-à-dire que nous, on est sur l'investissement vraiment coté en bourse. Donc nécessairement, on va s'exposer à des actifs qu'on appelle risqués. Et il y a une relation qui est incontestable dans le monde de la finance, c'est qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Donc nous, on met fin un petit peu aux croyances de dire que aujourd'hui, l'investissement responsable n'est pas performant. Ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ce n'est pas le cas dans le futur et ce n'était pas le cas dans le passé. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la performance des investissements liés à l'investissement responsable et à l'environnement, en fait, ça surperformait déjà des investissements traditionnels. Et en fait, c'est normal, c'est tout simplement une autre manière d'investir, une autre vision aujourd'hui de l'investissement avec une gestion des risques aujourd'hui qui est différente. Avant, les acteurs de la finance, les gérants d'actifs se concentraient beaucoup sur les risques financiers. Avec l'investissement responsable, on a une gestion des risques qui est complètement différente avec une vision beaucoup plus transversale, la prise en compte des risques sociaux, la prise en compte des risques climatiques, environnementaux. Et d'ailleurs, nous, on a une conviction chez Goodvest, c'est que le risque environnemental, c'est un risque financier aujourd'hui. Donc, potentiellement, aujourd'hui, quand on s'expose à ce type de société qui se prémunit justement de ce risque lié au changement climatique, ça ne peut qu'avoir des perspectives, en tout cas, très attractives à moyen long terme. Et surtout, ça va dans le sens de l'histoire, c'est s'exposer justement à des entreprises qui répondent aujourd'hui aux enjeux environnementaux et sociaux actuels et qui répondent tout simplement aux enjeux de demain, hein, tout simplement. Donc nous, on a cette conviction de dire que oui, l'investissement responsable est performant. Maintenant, nous, on est sur les marchés financiers, donc forcément, on a des variations, on est très dépendant de l'environnement économique, macroéconomique, de la conjoncture. Donc, typiquement, quand une guerre se déclare en Europe de l'Est, bon, bah, oui, temporairement, à court terme, il peut y avoir des mouvements à la baisse. Maintenant, il faut toujours avoir en tête, et d'ailleurs, on en avait parlé à un moment, c'est que on est sur de l'investissement, on n'est pas sur de l'épargne, c'est différent. Le risque est différent. Mais en même temps, si on se permet de prendre un risque supérieur, c'est qu'on s'attend à un rendement supérieur. Et ça vaut qu'on fasse de l'impact ou non. Nous, sur l'impact, on a juste la conviction que, y a des catalyseurs en plus, il y a une croissance qui est supérieure parce que justement, on va dans le sens de l'histoire, on va dans le sens de la transition. Voilà pour ma
Ouais, sur les
réponse.
actifs. Ah, ouais, merci, très intéressant. Et sur les actifs de ton côté, c'est un peu différent en effet, parce que voilà, parfois il va falloir enfin, la rentabilité à court terme sera pas forcément aussi intéressante. Nous, par exemple, si je prends l'exemple de Fèves, dans les terres agricoles, c'est un marché qui est très régulé et qui a une progression continue et assez stable, mais finalement relativement faible, puisque l'évolution du foncier en gros agricole depuis une vingtaine d'années, on est en moyenne à 3% par an. Sur d'autres foncières solidaires, voilà, sur les actifs vraiment où la recherche d'utilité sociale est prépondérante, et les actifs non cotés de la sorte comme FEV et d'autres actifs comme Habitat Humanif, ce n'est pas forcément la rentabilité qu'on va chercher annuelle qui va être la plus intéressante, mais par contre, on va souvent bénéficier grâce au label de la finance solidaire, donc notamment grâce à l'agrément ESUS qui prouve qu'on est une entreprise solidaire d'utilité sociale et qui recherche. Dont la raison d'être est justement la recherche d'utilité sociale, va permettre de faire bénéficier aux investisseurs de réductions d'impôts, notamment aux avantages fiscaux, qui peuvent aussi venir en complément de la rentabilité qui est proposée et qui peuvent être intéressants pour les investisseurs. Par exemple, nous, chez FEV, on propose, enfin, les investisseurs qui investissent chez nous vont bénéficier d'une réduction d'impôts de 25%, qui est plafonnée, qui rentre dans une niche fiscale, l'IR-PME, qui est plafonnée à 10 000 euros de réduction par an. Mais ça permet, voilà, d'améliorer la rentabilité aussi sur un actif qui n'est pas forcément très risqué, le foncier agricole. Après, si on prend l'exemple, par exemple, du crowdfunding dont on a parlé, là, pour le coup, ça va être un investissement beaucoup plus risqué, puisqu'on investit dans une entreprise donc qui peut très bien se porter ou ça peut moins bien se passer aussi. Donc là, on va prendre plus de risques. Par contre, on peut avoir une rentabilité intéressante aussi dans des projets qui ont aussi un fort impact social et environnemental. Puisque c'est des entreprises qui ont vocation à grandir, mais avec une vision différente de la vision classique. Par exemple, Genesis, dont je parlais tout à l'heure, s'ils développent leur outil de santé des sols auprès de toutes les grosses entreprises de l'agroalimentaire à terme et qu'ils arrivent à en créer un label reconnu, ils pourront être une entreprise qui aura pris de la valeur. Mais par contre, l'investissement est forcément bien plus risqué qu'en investissant dans du foncier, dans un actif tangible comme le foncier agricole ou l'immobilier pour les foncières solidaires comme Habitat Humanist qui rénove des biens immobiliers pour lutter contre l'exclusion.
Totalement.
Donc voilà, un peu différent.
Et je vais juste même ajouter quelque chose, et tu l'as dit hein, tout à l'heure, c'est que quand on investit, en tout cas, quand on n'épargne pas, mais qu'on investit, que ce soit dans des foncières agricoles, en assurance vie ou autre, et d'autant plus quand on investit avec une conviction, avec de l'impact ou autre, on ne peut pas exiger de la performance à court terme. Faut toujours mettre en parallèle justement des horizons d'investissement plutôt longs. Et surtout, il ne faut pas exiger une surperformance immédiate. Ce sont des thématiques qui sont ultra intéressantes, qui sont porteuses de sens, en tout cas à long terme, qui nécessitent qu'on s'y intéresse et justement sur le long terme. Et c'est là, en fait, que la performance est présente, c'est à long
Oui,
terme
c'est ça.
sur l'ensemble de ces
Oui,
types
complètement.
d'investissements.
Ouais. Ouais, complètement. Donc, c'est vrai qu'on peut, voilà, pour répondre à la question concrètement, on peut quand même allier poser rentabilité, notamment sur ces actifs-là, avec une vision long terme. Et surtout, voilà, on va en reparler plus tard, mais la plupart des investisseurs qui veulent investir dans ces actifs-là aussi, voilà, des vraies convictions, et c'est des investissements aussi de conviction qui permettent, sur le long terme, voilà, qui ont une performance économique qui va dans le sens de l'histoire, en effet, comme tu disais, Mathieu.
C'est ça, il y a pas mal d'études en plus dessus qui montraient hein, que justement l'intégration des pratiques de durabilité au sein d'une entreprise améliore en fait sa rentabilité à long terme. Et c'est logique, et ça revient un petit peu à ce que je disais, c'est non plus la prise en compte que du risque financier, mais d'autres risques qui sont nécessairement vecteurs justement de performance et de rentabilité à long terme.
Par exemple, sur l'exemple du foncier agricole, notamment, voilà, c'est un. On peut penser que dans les années à venir, un foncier agricole sur lequel on prend soin des terres, on replante des haies, on replante des arbres sur lesquels on va prendre soin du sol et on va restaurer la matière organique dans le sol avec des moyens naturels de le faire, va prendre plus de valeur finalement qu'une terre agricole qui se détériore au fil du temps avec des pratiques
C'est ça.
intensives.
Ouais, non, totalement.
Mathieu, tu veux nous parler de Goodvest un peu plus concrètement, ce que vous
Ouais.
proposez, comment ça se passe, et un peu la définition et tout ça?
Ouais. Donc Goodvest, bah, j'en ai parlé, entreprise à mission. Nous, notre mission, donc on est gérant d'épargne, on propose des solutions d'investissement. Aujourd'hui, on propose trois produits, une assurance vie pour les enfants mineurs et un plan épargne retraite depuis peu, avec toujours cette même philosophie, cet même engagement sur la partie sur le plan environnemental et social. Donc aujourd'hui, on a comme je le disais, l'ensemble de nos portefeuilles d'investissement sont alignés sur l'accord de Paris en matière de climat, donc respectent cette trajectoire de maximum 2 degrés, Donc, on a vraiment monté notre, c'est-à-dire que la gestion finalement aujourd'hui de nos portefeuilles est vraiment bâtie sur deux piliers centraux, l'exclusion des secteurs néfastes et l'analyse de l'empreinte carbone de l'ensemble de nos investissements, de manière à analyser, bah, matérialiser aujourd'hui, chiffrer notre impact et analyser également la contribution de nos portefeuilles à l'atténuation du changement climatique. Ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, le monde de la finance, il est essentiellement fondé sur des considérations financières à court terme. Nous, on considère que pour aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça, tout simplement. Donc, on essaye de, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on gère aujourd'hui l'argent de nos clients en se basant également sur des considérations environnementales à long terme, en chiffrant. En s'équipant d'indicateurs concrets aujourd'hui d'impact et de contribution. Aujourd'hui, on s'est basé sur un indicateur, j'en parlais beaucoup, mais l'indicateur qu'on a pris en compte pour mesurer cet impact et cette contribution, c'est un indicateur, à notre sens, qui est scientifiquement quantifiable et évaluable, c'est le CO2. Aujourd'hui, c'est un des seuls indicateurs, en tout cas sur le plan climatique, qui nous permet de mesurer concrètement, de manière harmonisée, j'entends bien, d'une entreprise à une autre, son impact. Et donc, c'est pour ça qu'on va analyser l'empreinte carbone de l'ensemble de nos investissements. À la fois les émissions directes et indirectes. Donc, on ne se base pas que sur ce que reportent aujourd'hui les sociétés et on s'appuie également sur les émissions indirectes liées à leur activité. Et on s'appuie notamment sur les données d'un partenaire qui s'appelle Carbon 4 Finance, peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais qui nous fournit justement l'ensemble des données climat relatives à l'ensemble de nos investissements et qui nous permet de nous construire nos allocations, notre allocation d'actifs. Donc, on s'est attaqué, on va dire, à l'assurance vie et le plan épargne retraite. Souvent, ce qu'on peut nous dire, c'est ça paraît étonnant quand on veut faire de l'impact, mais en réalité, il y a un réel problème là-dessus. Aujourd'hui, l'assurance vie et le plan épargne retraite, c'est 2 000 milliards d'euros en France. C'est 2 000 milliards d'euros qui pourraient être réorientés vers la transition et qui ne le sont pas entièrement. Donc, nous, c'est ça notre mission, c'est de réorienter au maximum les flux de l'assurance vie parce qu'aujourd'hui, c'est un moyen d'avoir de l'impact, c'est un levier d'action supplémentaire. Comme je le disais, aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts au quotidien pour limiter son impact, mais l'épargne, c'est un poste souvent qu'on oublie. Et notre épargne, elle a un impact conséquent aujourd'hui sur l'environnement. Il y a très peu de transparence et encore des investissements qui sont réalisés dans les industries polluantes. Donc, c'est avec des initiatives comme ça, comme FEV, comme l'ITA, comme Goodvest, qui va nous permettre justement aujourd'hui de gagner, entre guillemets. Donc, voilà un petit peu notre mission chez Goodvest. Donc, de réorienter cette épargne, toujours avec une philosophie très exigeante, une méthodologie qu'on a construite en interne qui est aujourd'hui la plus exigeante du marché, hein, avec en priorisant aujourd'hui les critères extra-financiers, l'empreinte carbone, l'exclusion sectorielle, et avec beaucoup de choses à venir. J'ai beaucoup parlé de climat, mais il n'y a pas que le climat dans la vie. Il y a d'autres aussi d'autres choses. On a parlé de la biodiversité tout à l'heure. Typiquement, ça, c'est un projet dont on est en train de se saisir, entre guillemets, de pouvoir mesurer aujourd'hui notre impact sur la biodiversité, les pressions exercées sur les différents écosystèmes. Ça, c'est des choses qu'on est en train de faire du coup chez Goodvest. Et donc, du coup, nous, nos clients, ce sont des clients particuliers comme moi, comme vous, qui investissent au sein d'une assurance vie, d'un plan épargne retraite pour faire fructifier leur capital à long terme pour un projet, que ce soit transmettre un patrimoine, épargner pour sa retraite ou autre. Et sachant que Goodvest, nous, on s'occupe de la gestion de l'ensemble de ces enveloppes. Donc, c'est vraiment de la gestion pilotée. On accompagne nos clients dans la détermination de leur projet, dans leur profil de risque, dans le choix des thématiques d'investissement. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Et tout ça au sein d'enveloppes comme l'assurance vie et le plan épargne retraite, et de manière digitalisée, tout ça en ligne d'ailleurs, heureusement. Ils ont accès à un espace client, on leur reporte énormément de données à la fois sur la partie financière et sur la partie extra-financière. Ça, j'insiste dessus, mais il n'y a pas de transparence sans, enfin, il n'y a pas d'impact sans transparence. Donc, on est hyper transparent sur l'ensemble de ces données. On va les renseigner sur l'empreinte carbone de leurs investissements, sur la comparaison par rapport à un portefeuille traditionnel, sur les émissions de CO2 économisées. La trajectoire de réchauffement climatique, etc.
Okay. Et t'as un minimum aujourd'hui pour investir dans Goodvest?
Oui, j'en ai pas parlé d'ailleurs. Mince. Le minimum, il est 300 euros. C'est hyper accessible. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec ce que tu disais, Paul-Antoine, de démocratiser aujourd'hui l'accès à ces solutions innovantes. Donc, nous, c'est à partir de 300 euros. C'est hyper accessible. On a des clients qui vont d'enfants d'à peine un mois jusqu'à 89 ans. Donc, on s'adresse vraiment à toutes les typologies d'investisseurs. Ça peut être des primo-investisseurs. On a à peu près plus de 50% de nos clients qui sont des primo-investisseurs, donc qui n'avaient jamais investi, qui avaient tout mis sur un livret A, mais qui se rendent compte que bah, potentiellement, comme on a une inflation qui est à 5% et que le livret A rémunère 3%, on va en fait à laisser son argent sur un livret A, déjà que c'est une hérésie écologique, on perd de l'argent en fait. Son argent se dévalorise. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que On ne peut pas acheter le même nombre de baguettes de pain d'une année à une autre avec l'inflation. Donc il faut pouvoir investir, et non plus épargner, mais investir dans des solutions avec un rendement supérieur à l'inflation, ce qu'on permet de faire aujourd'hui. Et on permet de le faire de manière hyper accessible à partir de 300 euros, que ce soit sur une assurance vie ou sur un plan épargne retraite, avec le plan épargne retraite et notamment avec la petite économie d'impôt qui est permise justement par ce plan épargne retraite, parce qu'il faut savoir que le plan épargne retraite, c'est une enveloppe d'investissement qui permet de profiter d'une économie d'impôt à l'entrée, donc qui permet de réduire notamment ses revenus imposables et de défiscaliser dans les grandes lignes. J'aime pas trop ce terme, mais qui permet en tout cas de proposer une économie d'impôt à l'entrée.
Merci. Et Paul-Antoine, tu veux présenter un peu Fève, ce qu'on fait, etc.
Ouais. Tout à fait. Donc nous, c'est un investissement qui est très concret, puisque en investissant dans la foncière FEV, vous investissez vous permettez l'acquisition d'un certain nombre de fermes. Donc aujourd'hui, comme le disait Louise en introduction, on a financé 11 fermes avec l'argent qu'on a collecté auprès de principalement de particuliers. Nous, on a collecté 10 millions aujourd'hui. En gros, 9 millions viennent de particuliers. Par contre, on a un écart-type énorme parmi nos investisseurs, le ticket minimum d'entrée de 500 euros. Et on a des investisseurs qui investissent plusieurs centaines de milliers d'euros, qui ont des gros patrimoines et qui veulent avoir une utilité concrète avec cet argent et qui servent à quelque chose de concret. Et donc, ça permet en effet d'avoir un investissement tangible dans des fermes, puisqu'avec ces 10 millions d'euros, donc on a 9 millions auprès de particuliers qu'on a collectés, puis on a collecté 1 million aussi auprès d'institutionnels. On a les premiers institutionnels qui sont rentrés cette année au capital de la foncière, qui sont la Caisse des dépôts et un fonds d'engagement solidaire du Crédit Mutuel, qui ont mis 500 000 euros chacun. Et donc avec tout cet argent, voilà, ça nous permet de financer des fermes en agroécologie, puisque les agriculteurs qui s'installent avec nous sont en location avec option d'achat et s'engagent à respecter une charte agroécologique qu'on a définie, qui comprend notamment le respect du cahier des charges bio, la diversité des ateliers de production, l'utilisation de l'agroforesterie, le respect du sol avec des moyens naturels de le protéger et qui favorise une meilleure gestion des ressources, parce que ça va permettre de mieux capter l'eau. Donc tous ces moyens-là pour finalement créer des fermes autonomes et diversifiées un peu partout en France. Donc aujourd'hui 11 dans l'ouest de la France et on sera entre 15 et 20 fermes financées d'ici la fin de l'année. Et donc oui, c'est vrai que nos investisseurs nous disent souvent voilà, qu'ils sont contents de pouvoir investir dans un actif qui est vraiment tangible, concret, relativement stable quand même, puisque la progression, comme je vous le disais, est assez continue. Et avec ce bonus de réduction d'impôts, puisqu'on a l'agrément ESUS de 25%, de réduction d'impôts de 25% à l'entrée, qui permet voilà, pour les investisseurs qui investissent entre 500 euros et 40 000 euros d'améliorer le rendement visé qui est de 3%.
Une dernière question et après on va passer aux questions-réponses avec les questions qui sont dans le chat. Que recommanderiez-vous à quelqu'un qui a 20 000 euros à investir?
Que tu veux
Vas-y, vas-y.
commencer, tu veux que je commence.
Vas-y, ouais.
Quelqu'un qui a 20 000 euros à investir, il doit se poser des questions déjà en amont. Déjà, il faut qu'il se connaisse. Il faut se connaître. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Il faut connaître ses objectifs. Il faut connaître sa tolérance au risque. Il faut connaître son horizon d'investissement. Il faut connaître sa capacité d'épargne. Est-ce que ces 20 000 euros, je suis prêt à tout investir? Est-ce que je vais investir qu'une partie? Donc ça, c'est des choses dont qu'il faut absolument faire au préalable. Et au-delà de se connaître, de connaître les solutions qu'on va utiliser, que ce soit l'assurance vie, le plan épargne retraite, la foncière agricole, le crowdfunding, ça c'est des choses qui sont hyper importantes. Se renseigner, donc ça va de pair, sur ce qu'on va faire avec son épargne, son investissement. Comme je disais, ne pas hésiter à titiller son banquier, son conseiller bancaire à ce niveau-là. Nous, c'est des choses qu'on pousse à nos clients, hein, de titiller leur conseiller bancaire en leur demandant concrètement. Qu'est-ce qu'ils financent via leur livret d'épargne, via leur compte courant, via leur assurance vie qu'ils ont dans leur banque traditionnelle ou autre. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Les épargnants, ils ont un pouvoir qui est incroyable justement à ce niveau-là et il faut s'en servir de ce pouvoir, hein, d'aller justement insister auprès de ces conseils. Et enfin, de se faire accompagner. Moi, c'est le troisième conseil que je peux donner. C'est hyper important parce qu'on n'est pas tous des financiers dans l'âme. Il faut admettre que parfois c'est pas son métier et que parfois bah, il faut potentiellement faire confiance à des experts du sujet sur les foncières agricoles. Moi je connais pas du tout le sujet. Bah, si je dois m'y intéresser, j'irai voir Fermentvie par exemple. Sur l'assurance vie, bah, nous on a des conseillers, on a des experts justement financiers, des conseillers financiers, des anciens conseillers en gestion de patrimoine, des anciens banquiers privés qui sont des experts justement de la gestion des projets d'épargne et d'investissement, de l'allocation patrimoniale d'une épargne, et tout ça à partir de 300 euros. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des tiers de confiance et qui partagent, qui plus est, leur valeur. Donc, moi, sur les 20 000 euros, si j'avais quelque chose, un conseil standard à donner, c'est déjà de ne pas tout, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'en ai parlé tout à l'heure. Nous, je pense, alors là, c'est une vision très, très personnelle, mais l'assurance vie est. Et le couteau suisse de l'investissement, on peut faire énormément de choses avec l'assurance vie, ça s'adapte à tous les projets, court terme, long terme, moyen terme, c'est liquide, disponible à tout moment. Il y a une gestion du risque qui peut être ajustée en fonction de son appétence, de sa tolérance au risque, et qu'on est prêt à avoir les montagnes russes sur son assurance vie ou pas du tout. Donc moi, sur les 20 000 euros, j'aurais toujours tendance à dire, on privilégie l'assurance vie parce que c'est le couteau suisse, toujours se garder un petit matelas. La sécurité, c'est hyper important. La fameuse épargne de précaution, alors même si sur le plan écologique, c'est pas top, mais conserver un minima, une certaine somme sur un compte courant ou sur un livret d'épargne, c'est important pour faire face à ces dépenses, à ces besoins exceptionnels. Nous, on préconise chez Goodvet de garder 3 à 4 mois de dépenses courantes à peu près sur ce type de matelas, sur ce type d'épargne de précaution. Et enfin, le surplus, pas totalement investi, bien évidemment, sur l'assurance vie, mais ajouter un petit peu de diversification, c'est toujours intéressant, et même pas qu'un peu. Nous, on préconise, dans le cadre d'une allocation, en tout cas patrimoniale diversifiée, d'investir à peu près 5 à 10% dans des actifs alternatifs, dans des investissements alternatifs, donc crowdfunding, foncière agricole ou autre. Ça, c'est un peu notre recommandation en termes de gestion patrimoniale, mais c'est un petit peu voilà ce qu'on pourrait faire. Donc, sur les 20 000 euros, de dire de garder 30 à 40 % je sais pas, sur un livret d'épargne, d'investir 10 % dans de l'investissement alternatif et le reste en assurance vie ou en plan épargne retraite, par exemple.
Je pense que c'est très complet, hein. Mais en effet, ouais, je pense que voilà, c'est une allocation. Je pense que tu es plus expert sur le sujet, qui me semble complètement cohérente. C'est vrai que nous, on va plus se placer dans les produits alternatifs qui représentent, voilà, on a un investissement plus sur le long terme, de conviction, et qui va du coup être moins liquide. Donc forcément, c'est pas la première épargne qu'on va placer chez Fev. Mais dès qu'on commence à avoir, voilà, une épargne déjà assez diversifiée et qu'on veut avoir un impact concret avec son argent, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser les bonnes questions et se dire, voilà, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je veux faire de mon argent, qu'est-ce qui pourrait aider, à quoi il peut servir. Et c'est là qu'on
Totalement.
peut se tourner vers Fève notamment et d'autres foncières,
C'est ça.
d'autres sujets beaucoup plus concrets finalement. Parce que là, finalement, on sait vraiment ce qu'on finance. Et ce qui est le gros avantage aussi de financer ce type de projet, c'est que c'est très gratifiant de savoir exactement à quoi sert son argent sans avoir de doute sur vraiment ce qu'il finance.
Ça, c'est hyper important et l'impact est totalement hyper important en tout cas sur ce type de projet et ça va de pair avec les horizons relativement lointains dont on a parlé. Moi, ce que j'aime bien dire à chaque fois, c'est que je reviens sur l'horizon parce que j'ai parlé de diversification, mais l'horizon, c'est hyper intéressant. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que l'épargne et l'investissement, enfin, en tout cas, l'investissement, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, il faut vraiment voir long terme et ça, c'est une des clés de la réussite de nos investissements, c'est ça, d'être en capacité de diversifier, de voir suffisamment loin et d'être régulier. À mon sens, c'est les 3 clés de l'investissement, si certaines personnes veulent se lancer à l'issue de ce webinaire.
Ouais, d'ailleurs, en parlant d'horizon, c'est vrai que j'ai parlé de la réduction d'impôt de 25 %, mais elle vient en contrepartie, en général, du fait d'être bleu,
Une conservation,
de
ouais.
conserver les actions pendant 7 ans. Donc, c'est une durée long
Ouais.
terme pour pouvoir bénéficier de cette réduction d'impôt, puisque c'est l'objectif aussi de ce type de loi, c'est de favoriser les investissements long terme dans l'économie réelle. Et donc, forcément. Mais c'est vrai que nous, on aura aussi un gros sujet d'ailleurs de recréer du lien entre nos investisseurs et nos agriculteurs, parce qu'en fait, c'est aussi un des gros avantages qu'on a en investissant dans un actif tangible. C'est que voilà, vous pouvez voir les fermes que vous financez, les agriculteurs que vous aidez à s'installer. Donc aujourd'hui, ils sont 19. Et nous, on a un gros objectif aussi de recréer du lien justement entre citoyens investisseurs qui permettent à ces projets d'exister, ces agriculteurs qui travaillent pour nous nourrir, par le biais de visites de fermes, notamment des rencontres. Et je pense que ce sera un sujet très, très important aussi pour justement avancer dans cette transition écologique.
Totalement.
Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou on passe aux questions du chat?
On peut passer aux questions, je pense, hein.
Allez, il y avait une première question qui est pour toi, Mathieu. C'est Goodvest, c'est que pour les Français?
Pas du tout. Néanmoins, l'assurance vie ou le plan épargne retraite, c'est des enveloppes qui sont assez réglementées. C'est régi par le code des assurances, par le code général des impôts. Donc, on ne peut pas la distribuer à n'importe qui, entre guillemets. Donc, ce n'est pas que pour les Français, à condition qu'on ait une résidence fiscale en France. Donc, on est, je cite la loi, hein, qu'on est le centre de ses intérêts économiques en France. Donc, si vous êtes d'une nationalité étrangère, mais que vous êtes résident en France, bah, c'est totalement possible, sauf, et je dis bien sauf, à une catégorie, à une nationalité, mais qui est exclue partout, que sont les Américains. Ce qu'on appelle les US personnes dans le jargon sont pour le coup pas acceptés chez Goodvest, que même si vous avez la double nationalité américaine, bah, c'est pas possible. Donc pour répondre, Goodvest, c'est pas que pour les Français à condition qu'on ait une résidence fiscale en France. Et d'ailleurs, c'est également accessible à l'étranger à condition qu'on soit de nationalité française. Donc si par exemple vous êtes français mais résident en Belgique ou en Espagne, bah, c'est possible. On peut investir chez Goodvest au sein d'une assurance vie sur le plan épargne retraite aussi, mais il n'y aura pas d'intérêt. Parce qu'un des intérêts du plan épargne retraite, c'est la fameuse économie d'impôt. Et comme le système de l'impôt, d'imposition est différent dans d'autres pays qu'en France, bah, il n'y aura pas d'intérêt en réalité.
Okay. Et si tu es français et que tu vis aux États-Unis, tu as le droit de d'avoir
Non
double.
plus.
Non.
Non plus. Dès qu'il y a un indice, ce qu'on appelle un indice d'américanité, c'est mort. Et partout, hein, c'est pas, même pas que Goodvest, c'est toutes les banques assureurs. Ça c'est depuis la loi FATCA en fait en 2008, qui était une loi qui avait été sortie par l'administration Obama pour lutter contre les paradis fiscaux. Et pour le coup, ça a engendré pas mal d'obligations réglementaires de la part des banques et des assureurs, qui en fait trouvent que c'est un trop gros travail d'accepter des Américains parce que ça demande des reportings de manière périodique à l'administration fiscale américaine, l'ARS. Donc, tout simplement, pour simplifier les choses, on refuse, tout le monde refuse en fait les Américains, que ce soit résident fiscal, que ce soit nationalité américaine ou même binationaux. Ça, c'est pas accepté.
Ok. Après, il y a qu'est-ce que l'investissement solidaire? Peut-être Paul-Antoine?
Bah, je pense qu'on en a parlé, c'est une question qui est globale, mais il y a différents labels dont on a parlé. Il y a le label ISR, le label Greenfin et puis le label Finansol. Donc, comme tu disais, Mathieu, il y a deux labels qui sont plutôt étatiques, qui sont ISR et Greenfin, qui vont labelliser des fonds selon certains critères, mais sachant que le label ISR est le plus, on va dire, le moins strict,
C'est moins strict, ouais,
c'est
totalement.
le moins strict. Et puis après, il y a le label Finansol qui est des références des acteurs de la finance solidaire et qui, pour le coup, est attribué par un comité indépendant et donc qui est plus difficile à obtenir. Et donc, l'épargne solidaire dans l'ensemble, en fait, enfin, l'investissement solidaire, c'est un peu toutes ces cases-là réunies. Donc, ils sont assez, c'est un éventail assez large, finalement, de possibilités aujourd'hui.
C'est une manière d'investir, en tout cas, avec un impact. Soit sociale, environnementale ou autre. Moi, je définis un petit peu comme ça. La finance solidaire, c'est vraiment un concept assez global qui permet de recenser justement toute cette manière d'investir, mais toujours avec cet impact positif sur de manière sociétale ou sociale ou environnementale.
Mais à creuser, bien sûr, à chaque fois,
Toujours,
dans
toujours
son sens.
creuser. On part du principe que sur un. Alors, le Finansol, il est exigeant, mais sur le label ISR. Disais, hein, on peut très bien avoir que des pétrolières, quasiment que des. Enfin, en tout cas, les cinq plus grosses entreprises dans un fonds ISR qui sont des pétrolières. Hein, donc, c'est vraiment pas gage d'exemplarité. Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas de fléchage direct. Il n'y a pas de devoir de financement de la transition écologique. Donc, voilà. C'est dramatique.
Ensuite, il y avait une question sur comment répartir son épargne entre une solution comme Fev et Goodvest. Mais je pense que Mathieu t'y a un peu répondu avec.
Ouais, on y a déjà répondu. Effectivement, moi, ce que je préconise, alors après, parce que j'ai cette vision sans mettre en avant forcément Goodvest, mais j'ai cette vision vraiment gestion de patrimoine, allocation diversifiée patrimoniale. À mon sens, les investissements alternatifs vont représenter plus de 5 à 10% du patrimoine global. Maintenant, si on est vraiment hyper tolérant au risque, rien ne nous empêche d'aller plus loin, de faire 20, 30%. Mais il faut être conscient que le risque de perte en capital, il peut être plus important, qu'on est moins forcément diversifié. Donc, c'est pour ça que moi, je mets toujours un warning là-dessus en disant voilà, 5 à 10% du patrimoine global. Ensuite, on a son épargne de précaution, on a son épargne en assurance vie qui est vraiment le couteau suisse. On peut faire vraiment ce qu'on veut, mais l'investissement alternatif, voilà, il faut faire attention. Mais après, moi, j'ai déjà parlé avec des clients qui avaient 50% de leur patrimoine investi en investissement alternatif. Il n'y a pas de problème, hein, mais c'est leur choix. Mais voilà, moi, c'est plus le conseil en disant attention, gestion du risque, 5 à 10%, pas plus.
Il y a une dernière question qui est pourquoi ne pas s'associer aux GFAM locaux qui sont déjà implantés depuis de nombreuses années?
Alors ça, c'est plus pour moi. Nous, le modèle qui a été choisi au départ de SCA, c'était la possibilité pour nous d'accueillir. Enfin, c'est un modèle qui est assez. Donc le modèle de SCA, c'est le statut juridique société en commandite par action. C'est un modèle de foncière. C'est un modèle qui est pas mal usité dans le secteur de la finance solidaire notamment. Donc les exemples que j'ai cités tout à l'heure, Terre de Liens, Habitat Humanisme utilisent ce modèle-là. Time for the Planet aussi plus récemment utilise ce modèle-là et permet d'accueillir voilà des milliers d'associés commanditaires au capital et de séparer aussi la gestion du financement de la gérance en fait. Donc les associés commanditaires sont actionnaires de la foncière et détiennent les actifs immobiliers, mais c'est une SAS qui est gestionnaire de cette foncière et en charge de monter les projets. Donc ça permet de séparer les deux. Et puis aussi, la responsabilité est limitée pour les associés commanditaires dans ce type de structure. Et donc, c'était le meilleur, finalement, outil qu'on a trouvé pour financer cette transition agricole au démarrage, quand les fondateurs se sont intéressés à ce sujet et qu'ils ont décidé du modèle. C'était le meilleur modèle qui nous permettait de faire ça, de collecter l'épargne auprès du grand public, de faire de l'offre au public de titres financiers, donc de recevoir des milliers potentiellement d'actionnaires et puis de séparer la gérance des actifs fonciers.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou peut-être Mathieu, Paul-Antoine, des choses à rajouter, des questions qui vous viennent?
Non, moi j'ai pas de choses à ajouter, mis à part de continuer à vous renseigner sur ce que finance votre épargne. C'est important pour faire évoluer les choses et voilà, ne pas hésiter, comme je disais, à se faire accompagner, que ce soit par Fev, par Goodvest. Nous, on a des conseillers qui seront à votre écoute si besoin pour vous accompagner dans vos projets d'épargne et d'investissement. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire comme mot de la fin.
Peut-être juste sur les ordres de grandeur de ce que Goodvest gère aujourd'hui. Et Fev, j'en ai parlé tout à l'heure, mais peut-être Paul-Antoine, tu peux rappeler ensuite. Vas-y, Mathieu.
Ouais, alors nous, donc du coup, Goodvest, ça a été lancé il y a un peu plus de 2 ans. On gère aujourd'hui un peu plus de 50 millions d'euros, comme on aime bien dire, qui ont été sortis des investissements traditionnels vers Goodvest et réorientés vers la transition. On est 26 collaborateurs chez Goodvest. Voilà, donc on a 3 produits, assurance vie mineure et plan épargne retraite. Et un peu plus aujourd'hui de quasiment 6 000 clients qui nous ont rejoints depuis 2 ans. Donc on a un partenaire assureur qui est Generali, qui est un petit peu le coffre-fort entre guillemets de l'épargne de nos clients, qui nous accompagne depuis le début. Et donc nous, Goodvest, voilà, on intervient vraiment en tant que gérant de cette épargne pour le compte de nos clients.
Et donc nous, ouais, donc nous, on est à 10 millions de fonds collectés en 2 ans sur la foncière Les Fèves. La foncière a été créée en juillet 2021. 10 millions collectés, on se ferme installer avec l'objectif. Là, on a déjà, on sera entre 15 et 20 projets financés d'ici la fin de l'année. Et l'objectif d'atteindre 15 millions de collectes aussi d'ici la fin de l'année. On sait qu'en fait, une grosse partie de notre collecte se passe en fin d'année, notamment du fait de la réduction d'impôts. Et donc, on a des gros objectifs d'ici la fin de l'année pour pouvoir déjà commencer à préparer les projets qui seront installés l'année prochaine, sachant qu'en moyenne, pour installer un projet entre le moment où on identifie la ferme où le porteur de projet vient nous contacter, on a le projet identifié et le moment où il est installé, ça prend entre 8 et 12 mois. Donc, c'est le temps long pour l'installation. Et donc, il faut déjà préparer l'année prochaine avec l'épargne de cette année des Français.
Ok, et on a une dernière question. Je pense que c'est pour toi, Paul-Antoine. Un avis sur les foncières forestières type serre-vert?
Oui, les foncières forestières, alors je ne suis pas assez expert pour donner mon avis sur celle-là spécifiquement, mais c'est une activité qui est plus structurée que l'activité agricole qui était historiquement liée principalement à Terre de Liens, et après avec des GFA AM locaux, comme en parlait la personne en commentaire, et des choses plus locales, mais en termes d'investissement solidaire, il y avait Terre de Liens, mais il y avait. En historique, mais plus récemment, il y en a d'autres qui se créent, mais ce n'était pas très structuré. Dans les GFF et dans les foncières forestières, il y a beaucoup plus de structuration. Donc ouais, il y a des choses intéressantes, mais je ne pourrais pas donner mon avis spécifiquement sur
Très réglementé les GFF, hein. De toute façon, il y a pas mal d'acteurs. L'acteur le plus ancien, je crois que c'est France Vallée qui existe depuis un petit moment.
Ouais.
Serre-Vert qui est arrivé il n'y a pas longtemps, mais avec plusieurs véhicules GFF, GFI. C'est hyper important. Moi, de ce que je connais de Cerver, hein, c'est que c'est des très bons acteurs à mon niveau, enfin à notre niveau. C'est vrai que sur les forêts, il faut faire attention en plus. Comment sont gérées les forêts? Est-ce qu'elles sont gérées de manière durable? Est-ce qu'ils autorisent la coupe rase ou enfin, des choses comme ça? Il y a vraiment des choses hyper importantes à regarder. Nous, de ce qu'on avait pu voir, c'était que Cerver, France Vallée ou autre, c'était quand même des acteurs qui étaient suffisamment engagés dans une gestion durable des actifs forestiers, des massifs forestiers.
Ok. Paul-Antoine, peut-être juste, tu peux nous préciser la différence entre Terre de Liens et Fève, très rapidement, mais on en a pas mal
Oui,
parlé.
très rapidement, bah, nous, globalement, on a le même objectif, c'est d'installer la nouvelle génération d'agriculteurs en agroécologie. La différence majeure, c'est sur l'option d'achat. Nous, on propose à nos agriculteurs de devenir propriétaires des terres. Ça nous permet notamment d'avoir un impact encore plus fort, puisque les options d'achat qui sont exercées par ces agriculteurs permettent à d'autres agriculteurs de s'installer ensuite. Et donc, ça leur permet aussi de devenir propriétaires, qui est un gros souhait de la part de nombreux agriculteurs. Et puis du coup, on est assez complémentaire avec le travail de Terre de Liens, qui, Terre de Liens, pour le coup, préfère conserver ses agriculteurs en locataire, en tant que locataire, qui vont payer un fermage, et donc ils préfèrent sortir les terres du marché. Donc nous, on aura des agriculteurs aussi qui vont rester locataires et qui ne deviendront pas propriétaires. Mais du coup, on a une vision assez complémentaire et un peu différente à ce niveau-là.
Merci. Eh ben, je crois que nous avons fait le tour. 1 heure pile. Merci beaucoup. Merci Mathieu, merci Paul-Antoine et
Merci.
merci à tous
Merci
d'être
à tous les deux.
venus. Et on vous
Merci.
reverra en replay du coup demain, je pense. Voilà. Mais
Merci
merci.
à toutes et tous.
Merci.
Au revoir. Au
Au
revoir.
revoir.